Et voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Les forces du régime syrien avancent vers le nord-est du pays, au chevet des Kurdes, avec lesquels elles ont passé un accord hier. Une alliance contre l'armée turque qui, elle aussi, avance et continue ses tirs d'artillerie. Témoignage d'une journaliste qui a échappé hier à un bombardement et analyse des nouvelles unions dans un instant.
Nous irons ensuite en Tunisie, où un juriste conservateur est élu président. Il emporte plus de 70% des voix.
En Hongrie, en revanche, les conservateurs nationalistes ont perdu la capitale, Budapest, hier. C'est le premier revers de Viktor Orban en 10 ans.
Christian Jacob est le nouveau patron du parti Les Républicains. Il aura la lourde tâche de rassembler un parti en crise profonde et de trouver un candidat à la droite pour 2022. Nous y reviendrons.
Et puis nous nous pencherons sur le scandale du chlordécone, cet insecticide cancérigène. 90% de la population en Martinique et en Guadeloupe est touchée. 4 ministres français seront auditionnés cette semaine à l'Assemblée nationale. Et nous débutons donc ce journal par le témoignage d'une journaliste présente dans le nord de la Syrie, ayant échappé de peu hier à la mort. Le convoi de civils kurdes qu'elle suivait avec son collègue a été touché par un bombardement. L'Observatoire syrien des droits de l'homme évoque au moins une dizaine de morts, des dizaines de blessés également. Stéphanie Pérez, envoyée spéciale de France Télévisions, y était et elle raconte.
On était avec des réfugiés kurdes qui ont fui leur village bombardé depuis le milieu de la semaine. Par expérience, parce qu'on était tous dans la voiture des journalistes expérimentés, on a décidé de pas se mettre à l'avant du convoi. On s'est mis plutôt à la moitié du convoi, on va dire. Il y avait une centaine de véhicules, une centaine de minibus. D'un seul coup, devant nous, tout le monde s'est mis à faire demi-tour. D'un seul coup, il y a eu un mouvement de panique. Tout le monde à toute vitesse demi-tour. Notre chauffeur, qui a compris aussi ce qui se passait, a fait demi-tour. On a tracé tous sans savoir vraiment ce qui se passait.
Est-ce que vous avez la certitude que c'est bien l'armée turque qui vous a tiré dessus?
Nous, on n'a pas beaucoup de doutes parce que on était dans un convoi encadré par des forces kurdes à l'intérieur des civils kurdes, des partisans du Kurdistan. On se dirige dans une ville qui est tenue en partie par l'armée kurde, qui a fait l'objet de bombardements kurdes. Pour moi, il n'y a pas beaucoup de doutes sur l'origine de cette attaque.
C'était Stéphanie Pérez, envoyée spéciale de France Télévisions, interrogée ce matin par Marc Fauvel. Alors que l'offensive turque dans cette région dure donc depuis 4 jours maintenant, la situation empire d'heure en heure, disait ce week-end le chef du Pentagone, qui justifie ainsi le retrait d'environ 1 millier de soldats américains du nord de la Syrie. Les forces kurdes se disent lâchées par Washington. Elles annoncent avoir conclu un accord avec Damas, dont l'armée pourrait venir se déployer dans la zone assiégée. Nous retrouvons notre envoyé spécial à la frontière turco-syrienne, Mathieu Mondoloni. Bonjour Mathieu.
Bonjour Clara.
Mathieu, c'est un nouveau front qui s'ouvre dans cette guerre sans fin sur le terrain syrien.
Effectivement, les troupes de Damas sont en route pour contrer ce que le régime appelle l'agression turque. Elles ont pour objectif de venir défendre ces quelques 120 km de frontières attaquées depuis mercredi et surtout de repousser les forces turques et leurs supplétifs syriens. Ces supplétifs syriens, ce sont les combattants d'une milice pro-turque financée et entraînée par Ankara, regroupée au sein de ce qu'ils appellent l'armée nationale syrienne, selon les Kurdes. Elle est d'ailleurs essentiellement composée d'anciens djihadistes déjà soupçonnés de plusieurs exécutions sommaires des civils ces derniers jours.
Et Mathieu, est-ce que ce soutien est une surprise ?
Pas vraiment. Les Kurdes syriens et le régime sont des alliés objectifs depuis quasiment 2011, depuis le début de la guerre civile en Syrie. Il y a entre eux une sorte d'accord tacite, un accord jusque-là de non-agression. Chacun gérait sa partie de territoire et luttait contre ses propres ennemis, parfois les mêmes. Mais cet accord de non-agression est devenu désormais un pacte, un accord militaire annoncé par les Kurdes hier. Cet accord négocié depuis quelques jours est évidemment consécutif au retrait américain. Donald Trump a annoncé hier que les 1000 soldats encore présents au nord de la Syrie allaient partir en raison d'une situation, dit-il, devenu ingérable. 1000 soldats, c'est la quasi-totalité des forces américaines dans la région, ce qui est évidemment vécu comme une ultime trahison par les Kurdes syriens, d'où l'annonce de cet accord et l'arrivée des troupes de Bachar el-Assad, l'arrivée des troupes qui fait craindre évidemment une escalade dans cette région déjà fortement déstabilisée depuis plusieurs jours maintenant.
Merci beaucoup Mathieu Mondoloni. Depuis la frontière turco-syrienne pour France Culture, vous étiez avec Marc Garvenès pour les moyens techniques. J'ajoute qu'hier soir, Emmanuel Macron a une nouvelle fois exigé la fin immédiate de cette offensive turque. Après un conseil de défense restreint à l'Elysée, la présidence française va, dit-elle, prendre de manière imminente des mesures pour garantir la sécurité de ses personnels, militaires et civils. L'offensive turque contre les Kurdes, un test d'unité pour les Européens. Voici le thème du billet politique de Frédéric Seyss que nous retrouverons après cette édition sur France Culture. Il est 8h05 et les Tunisiens se réveillent remplis d'espoir. Ils ont largement élu Kais Saïd hier à la tête du pays. Ce juriste, théoricien de la Constitution aux convictions conservatrices, a recueilli plus de 70% des suffrages. Il était face à Nabil Karoui, patron de télévision, tout juste sorti de prison. Kais Saïd, lui, incarne au contraire une forme d'intégrité dans un pays où la corruption est importante. Ils étaient donc nombreux, heureux, hier soir dans les rues de Tunis, comme l'a constaté Christian Chesneau.
À peine les premières estimations connues, la foule des partisans du nouveau président a envahi l'avenue Bourguiba en plein centre de Tunis. Beaucoup de jeunes, des familles avec leurs enfants venus fêter la victoire de leur candidat dans une ambiance joyeuse.
Il est très honnête, très sérieux et il parle des jeunes, surtout des jeunes. C'est nous, on voit nous, on casse ça. Il a jeune d'esprit, on n'a pas besoin des vieux et des vieux dans la mentalité, dans l'esprit, dans le travail. On n'a pas besoin de la politique, on a besoin de nous.
En début de soirée, Kais Saïd a dédié son écrasante victoire à la jeunesse qui a massivement voté pour lui.
Merci aux jeunes, aux vieux et même aux enfants qui ont ouvert une nouvelle page de l'histoire. Glorieux peuple tunisien, tu as donné aujourd'hui une leçon au monde entier.
Personnage atypique, au visage impassible, Kais Saïd est perçu comme le nouveau monsieur propre de la Tunisie.
C'était Christian Chesneau, envoyé spécial de France Culture à Tunis. Au chapitre des élections encore, un autre résultat semble sans appel ce matin. Les conservateurs polonais emportent largement les législatives. Un sondage à la sortie des urnes hier soir évoquait 43% des voix en faveur du parti Droit et Justice, le PiS, avec une nette avance donc sur l'alliance centriste polonaise. Et puis arrêtons-nous aussi en Hongrie. Le parti nationaliste de Viktor Orban a subi hier une défaite à Budapest, la capitale, lors des municipales. Son premier revers en 10 ans de pouvoir. Pour ce faire, l'opposition s'est alliée derrière un candidat de centre-gauche, Florence Labrouillère.
C'est une victoire éclatante pour l'opposition hongroise. Avec 50% des voix, Gergely Karácsony, le candidat commun de l'opposition, a largement battu le maire sortant. Quadragénaire centriste et écolo, Karácsony a réussi son pari, reprendre la capitale au parti de Viktor Orban. Le nouvel élu a aussitôt annoncé la couleur. Budapest sera une ville verte et libre, une ville du 21e siècle, et nous allons la remettre sur la carte de l'Europe, a lancé le nouveau maire. L'opposition remporte aussi la majorité des mairies d'arrondissement. Pour la première fois, plusieurs quartiers bourgeois de la capitale, qui étaient à droite depuis 30 ans, ont voté contre Viktor Orban. Les partis d'opposition reprennent aussi des couleurs en province. Alors qu'ils étaient à la tête de 3 villes, ils remportent les élections municipales dans une dizaine d'agglomérations. Jusqu'ici, ces partis politiques étaient divisés et enchaînaient les défaites. Cette fois, leur alliance stratégique a porté ses fruits. Une alliance très large, puisque l'extrême droite a soutenu, ouvertement ou tacitement, les candidats du centre et de la gauche. La victoire de l'opposition montre que Viktor Orban n'est pas invincible. Elle donne aussi une indication de l'humeur du pays. Une bonne partie des Hongrois sont excédés par le régime autoritaire et corrompu de Viktor Orban.
Florence Labrouillère à Budapest pour France Culture. La crise a pris fin cette nuit en Équateur, pays paralysé depuis 12 jours par une crise sociale. Le gouvernement remet finalement en place les subventions pour le carburant, trouvant ainsi un accord avec les indigènes qui mettent fin à leur mouvement. Il reste beaucoup de travail avant un accord entre Londres et Bruxelles sur le Brexit. Le négociateur de l'Union européenne Michel Barnier ne change pas son discours à l'approche d'une sortie programmée du Royaume-Uni. Un sommet européen va se tenir en fin de semaine, dernier délai pour trouver un accord. Alors les tractations s'intensifient, Haute-Soufi.
Le Premier ministre Boris Johnson doit s'entretenir d'ici ce soir avec Emmanuel Macron, Angela Merkel et Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, pour parvenir à un nouvel accord avant le sommet de jeudi et vendredi. C'est toujours le sort de l'Irlande qui bloque, preuve sans doute du sérieux des discussions de ce week-end. Très peu d'éléments ont filtré sur les dernières propositions britanniques. Il pourrait s'agir de maintenir l'Irlande du Nord dans une forme d'union douanière avec l'Union européenne, une idée qui se rapprocherait du plan négocié par l'ancienne chef de l'exécutif, Theresa May, rejeté à 3 reprises par les députés à Westminster. Boris Johnson reviendra à Londres samedi, leur présenter les résultats du sommet européen lors d'une session parlementaire extraordinaire. En cas d'échec, la loi l'oblige à demander un report du Brexit à Bruxelles. Jusqu'à présent, il a toujours refusé cette idée, affirmant que le pays sortirait de l'Union européenne le 31 octobre prochain, coûte que coûte. Mais selon le Sunday Times, il aurait changé d'avis, ses conseillers en matière de sécurité l'ayant prévenu qu'un no deal pourrait raviver les troubles en Irlande du Nord et serait désormais prêt à tout pour obtenir un accord.
L'Espagne attend le verdict au procès des séparatistes catalans. Le tribunal suprême pourrait le rendre aujourd'hui. 12 dirigeants indépendantistes sont poursuivis pour leur implication dans la tenue d'un référendum. C'était en 2017 en Catalogne.
8h10 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Christian Jacob est le nouveau président du Parti Les Républicains.
Oui, le patron du groupe à l'Assemblée nationale était favori des sondages. Il emporte donc plus de 62% des voix des militants Les Républicains, dont la moitié s'est mobilisée. Christian Jacob devance le député souverainiste du Vaucluse, Julien Aubert, et le député plus libéral, Guillaume Larrivé. Il s'est engagé à ne pas être candidat à la présidentielle de 2022 et il a désormais la lourde tâche de rassembler un parti morcelé. Le député des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, veut y voir une première étape vers la reconstruction du parti.
La victoire de Christian Jacob dans ces conditions, avec une belle mobilisation des militants, avec un score sans appel, va nous permettre de reconstruire sereinement, mais avec confiance, notre famille politique. Une famille politique qui a traversé, qui traverse encore des difficultés, il ne faut pas se le cacher. Mais je crois que Christian Jacob est l'homme de la situation. En tout cas, les militants l'ont dit et ils lui font confiance. Ils lui ont donné ce mandat de reconstruire, de nous donner une nouvelle espérance.
C'était Éric Ciotti, alors que Jean-Pierre Raffarin annonçait hier qu'au contraire, il n'espérait plus rien à droite et se retire du parti Les Républicains. 3000 amendements ont été déposés et seront examinés à partir d'aujourd'hui. Le projet de loi de finances pour 2020 arrive à l'Assemblée nationale. Le texte valide notamment la diminution des 2/3 de la taxe d'habitation pour 80% des ménages qui la payent actuellement. Cela se fera à l'automne prochain. En échange, le gouvernement s'est engagé à compenser à l'euro près ce manque à gagner pour les collectivités territoriales. Mais les élus craignent que l'exécutif ne trouve une parade à leur jumée.
L'augmentation de la taxe d'habitation dépend de 2 paramètres. D'abord, ce qui est voté par les conseils municipaux et qui donne lieu d'ailleurs chaque année à des polémiques. Et puis, et ça c'est indépendant de toute décision politique, il y a ce qu'on appelle la valeur locative du bien. Elle est revalorisée chaque année au-delà de l'inflation. Eh bien, pour l'an prochain, le gouvernement a décidé qu'il n'y aurait plus de hausse de cet ordre. La valeur locative serait gelée. Argument invoqué, il n'y a pas lieu d'augmenter un impôt en train de disparaître. Le problème, c'est que c'est un manque à gagner de 250 millions d'euros pour les communes, d'où la colère des associations d'élus qui ont lancé l'alerte. Et elles ont eu à l'oreille des députés de la majorité. La semaine dernière, en commission des finances, ces derniers ont ainsi rétabli cette ressource, en la limitant un peu toutefois. Reste à savoir si le gouvernement suivra en séance ou en restera à sa position initiale. Au risque de mécontenter des élus déjà sur la réserve, ils craignent que la suppression de la taxe d'habitation ne soit pas compensée à l'euro près. Des élus que le gouvernement essaye justement de choyer en ce moment avec son projet de loi Engagement et Proximité pour revaloriser le statut de l'élu.
À l'Assemblée nationale encore, la commission d'enquête sur le chlordécone reçoit aujourd'hui 2 des 4 ministres auditionnés dans ce scandale. Scandale car le chlordécone est un insecticide classé comme cancérigène possible, longtemps utilisé dans les bananeraies aux Antilles. Il est suspecté d'être à l'origine du taux élevé de cancer de la prostate en Martinique et en Guadeloupe. Les ministres de la Recherche et de la Santé seront donc à l'Assemblée nationale ce lundi, puis la représentante des Outre-mer et le ministre de l'Agriculture qui devront tous répondre aux questions de la commission. Elle va notamment revenir sur la genèse du scandale, Véronique Roberotte.
Quand le chlordécone est reconnu comme étant un cancérigène possible en 1979 par l'Organisation mondiale de la santé, ce pesticide ultra toxique est déjà utilisé depuis plusieurs années aux Antilles pour lutter contre le charançon du bananier, un insecte ravageur. Il le sera encore de longues années, épandu copieusement jusqu'en 1993 outre-mer en vertu d'une dérogation gouvernementale. Les États-Unis ont interdit son usage depuis la fin des années 70. Un scandale français d'autant que ce pesticide, véritable poison pour la santé humaine et l'environnement, est du genre persistant. Sa substance ne disparaît pas du jour au lendemain. Sa persistance dans les sols est évaluée à plusieurs centaines d'années. Le chlordécone produira des effets sur plusieurs générations. Au-delà des procédures judiciaires en cours contre l'État pour faute lourde, l'enquête menée par la commission d'enquête parlementaire aura deux missions principales. Examiner les conséquences sanitaires, environnementales et économiques du chlordécone. Elle doit aussi étudier les responsabilités publiques et privées dans la prolongation de l'autorisation du pesticide aux Antilles et évaluer la nécessité et les modalités d'une indemnisation des préjudices. La commission d'enquête parlementaire doit rendre son rapport début décembre.
Une nouvelle perturbation pluvieuse arrive ce lundi par l'ouest, de l'Aquitaine à la Normandie ce matin, puis de l'Occitanie jusqu'aux Hauts-de-France cet après-midi en passant par l'Île-de-France. Averses parfois orageuses sur l'ouest et le centre. La vigilance y est orange sur 17 départements aujourd'hui. Ailleurs, en attendant la pluie, le ciel va rester ensoleillé. Comptez ce matin 13 degrés à Brest, 15 degrés à Lille, 18 à Paris-Besançon, 21 à Bordeaux et Lyon et 24 degrés à Marseille-Guillaume.
Merci Clara Lecoq-Réal.